L'un des succès de Barack Obama, on l'a vu, c'est d'avoir réussi à banaliser la couleur de peau. D'ailleurs, certains ont dit, Barack Obama est à la fois le premier président noir de l'histoire du pays, mais il est également le dernier président noir. Alors qu'est-ce qu'ils entendent par là ? Pas qu'il n'y aura pas à nouveau un candidat africain-américain, mais simplement le dernier président noir dans le sens où on ne parle plus du tout de sa couleur de peau. On parle de sa politique étrangère, de sa politique économique, mais ce qui avait fait problème pendant la campagne, eh bien, semblait être totalement devenu quelque chose de banal.
Alors justement, cette affaire souligne quand même que le racisme est toujours une question aussi sensible aux États-Unis.
Oui, alors vous savez, les États-Unis, c'est grand. C'est 300 millions d'Américains, c'est un pays continent. Donc la situation raciale en Louisiane ou en Virginie n'est pas la même que dans l'État de New York ou en Californie. Mais ce que montre l'évolution au cours des dernières années, c'est que notre vision des rapports interraciaux aux États-Unis, de ce côté de l'Atlantique, en Europe, elle doit être profondément révisée. Certes, la question raciale se pose toujours, mais elle se pose beaucoup moins qu'il y a évidemment 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans évidemment, puisqu'à l'époque la ségrégation était légalisée. Aujourd'hui, les incidents racistes sont l'exception, alors qu'il y a quelques années, c'était la norme.
La question raciale n'a quand même pas été totalement réglée avec l'élection du premier président noir d'Amérique.
Que certes, tous les problèmes ne sont pas effacés par l'élection d'un noir à la présidence de la République, mais qu'il faut continuer à dialoguer, et ça a vraiment changé depuis 30 ans, 40 ans. Aujourd'hui, noir et blanc se parlent aux États-Unis. Il y a un chiffre très important. Au début des années 80, lorsqu'on demande aux blancs, aux Américains de la communauté blanche, s'ils ont un ami noir dans leur premier cercle, eh bien, ils répondent à moins de 1 sur 2. C'est maintenant 8 Américains blancs sur 10 qui ont un ami noir et qui ont même invité au cours du dernier mois des amis noirs dans leur domicile.
Si je vous comprends bien, l'Amérique a donc bien fait des progrès. Lesquels ?
Le premier point, c'est les progrès très sensibles de la communauté noire américaine sur le plan économique et social. N'oublions pas aujourd'hui que plus de la moitié des noirs américains sont membres de la classe moyenne. C'est 60% des noirs américains qui sont membres de la classe moyenne. Donc, de ce côté, encore une fois, en Europe, on a souvent tendance à voir la communauté noire américaine à travers un peu du prisme des oppositions radicales, c'est-à-dire des noirs qui sont surreprésentés en prison, ce qui n'est pas faux, et des noirs qui sont des stars de la chanson, du rap ou du sport, de la NBA. Mais la réalité, c'est l'entre-deux. La réalité, c'est que la majorité des 33 millions de noirs américains ne sont ni en prison, ni bien sûr millionnaires. Ils font partie de la classe moyenne. Et puis le deuxième phénomène, c'est l'explosion considérable de la mixité. Aujourd'hui, 2 millions de couples mixtes aux États-Unis sur 55 millions. C'est un progrès considérable. Alors, vous allez me dire, on part de très très loin, puisque il faut se rappeler qu'avant 1968, les mariages interraciaux étaient même interdits dans le sud des États-Unis. Cette Amérique devient une Amérique métisse. Alors, le mot n'existe pas aux États-Unis. On dit une Amérique brown, une Amérique marron, où les identités sont de plus en plus complexes. Alors, certes, parfois, des incidents nous montrent qu'il y a encore parfois des oppositions communautaires, mais ne faisons pas de ces exceptions la norme aux États-Unis.